Les Racines du Ciel, une émission de Frédéric Lenoir, avec la participation de Lélie Anvar. Réalisé par Nathalie Salle, préparé par Marie Dalquier, avec à la technique Marie-Thérèse Ferrand. Le générique est une composition originale de Renaud Garcia Fons. Aujourd'hui, je reçois Paul Amblard pour parler du pèlerinage intérieur. Paul Amblard, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous êtes historienne de l'art, spécialisée dans l'art du Moyen-Âge. Écrivain, vous avez publié en 1998 « Le pèlerinage de vie humaine » chez Flammarion, « La vie de Jésus » chez Fayard Le Pommier, et en 2002 avec Frédéric Ebrard, « Célébration de la rencontre » qui constitue une initiation lumineuse au langage des enluminures médiévales et à l'art symbolique. Votre dernier livre, « Un pèlerinage intérieur » chez Albin Michel, est paru en 2008. Alors, ça m'a donné l'idée de thème de cette émission, le pèlerinage intérieur, et c'est de cela dont nous allons parler ensemble, en partant de ce très beau titre et de votre très bon livre, qui est un témoignage personnel. Nous en reparlerons tout à l'heure. Mais avant de parler de votre propre histoire et de votre propre pèlerinage intérieur, je voudrais que vous nous racontiez comment vous avez découvert ce livre médiéval, Le pèlerinage de vie humaine, qui est un livre, qui a été écrit en 1350, avec en sous-titre Le songe très chrétien de l'abbé Guillaume de Digulville. Comment vous avez découvert ce livre qui nous parle du pèlerinage de vie humaine, et qu'est-ce que ça vous a, quel est le déclic que ça a suscité chez vous?
C'est une histoire banale. Je suis une étudiante en histoire de l'art, il y a plus de 20 ans de cela. Et je découvre un manuscrit sur lequel je me mets à travailler, mais en ignorant la teneur de ce livre. Et je découvre quelque chose de tout à fait exceptionnel. Imaginez un très gros grimoire de 50 cm de haut sur 30 de large. Et quand j'ouvre ce livre, après bien des tribulations, parce qu'il est conservé comme un bien très précieux dans une bibliothèque de Paris, eh bien, je lis deux petites adresses qu'adresse le moine au lecteur et qui dit « Lecteur, fais attention, toi qui lis ce livre, à la fin de l'ouvrage, tu ne seras plus le même. »
C'est formidable.
Alors imaginez un peu mon impression. Soit je fuis à toutes jambes en me disant « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Ou alors je suis très curieuse et j'ouvre la deuxième page. Alors je suis très curieuse et j'ouvre la deuxième page. Et là, je tombe sur un monde enluminé. L'enluminure enluminait les pages noires, l'écriture noire gothique de ces manuscrits. Ça veut dire illuminer l'âme du lecteur. Et je tombe sur une centaine d'enluminures qui sont toutes symboliques, qui sont toutes un langage, car une image au Moyen-Âge est toujours porteuse de sens. Mais le moindre brin d'herbe, la couleur, le geste, veut dire quelque chose, et veut dire quelque chose pour amener le lecteur à devenir autre. D'où la petite adresse du moine au début de son ouvrage.
Donc finalement, ce livre a pour ambition de transformer le lecteur, de lui faire un pèlerinage de vie humaine. Et ça, c'est quelque chose dont aujourd'hui on a plus tellement, on ne parle plus comme ça, je dirais, on a plus tellement conscience que le vrai pèlerinage, dans toute dimension religieuse et spirituelle profonde, le vrai pèlerinage est un pèlerinage intérieur. C'est-à-dire que le pèlerinage tel qu'on le faisait, tel qu'on le fait encore, de se déplacer physiquement d'un lieu à un autre pour aller trouver finalement une relique ou aller prier dans un lieu particulier, ce n'est que le reflet du véritable pèlerinage qui est une quête intérieure.
Oui, au Moyen-Âge, cette quête intérieure pousse les gens sur les routes. Il faut vous dire également qu'être un pèlerin est l'état habituel de l'homme. Peregrinus veut dire l'exilé. Sur cette terre, nous sommes des étrangers. Et tout le but de l'homme au Moyen-Âge, c'est de retrouver sa terre d'origine. Alors, sa terre d'origine, on pourrait dire, c'est le paradis, c'est la Jérusalem céleste. C'est un état de plénitude. On rejoint peut-être aussi les bouddhistes dans ce sens, trouver la paix. Voilà ce qui pousse les hommes sur les routes. Et il faut vous dire également que les pèlerins, c'est un état courant. L'homme au Moyen-Âge, c'est un nomade. Ce n'est pas du tout un sédentaire. Et sur les routes, on croise toute une multitude, à la fois des étudiants, des chevaliers, des voleurs, des moines gyrovagues. Et il y a toute une population sur les routes. Et on va se sédentariser au fur et à mesure.
Quels sont les, pour dire un mot du pèlerinage tel qu'il avait lieu au Moyen-Âge, quels sont les insignes du pèlerin?
Alors les insignes du pèlerin, ce sont principalement le bourdon, le bâton, qui évidemment est aussi symbolique, hein, et la bourse, qu'on appelle aussi l'écharpe.
Alors, qu'est-ce qu'il symbolise, ces deux?
Alors, le bâton, concrètement, ça part toujours d'un aspect matériel. Le bâton sert à la marche, il aide à la marche, il aide à se défendre aussi, parce qu'on n'est pas sûr de revenir vivant d'un pèlerinage. Et il y a des chiens errants, il y a des loups, il y a des voleurs, et il sert à se défendre. Mais il symbolise l'esprit. C'est le bâton de lumière. C'est l'esprit qui doit guider nos pas. Et la bourse est ornée souvent de petites clochettes. Et d'ailleurs, on reconnaissait le pèlerin parce qu'il tintait. On l'entendait venir sur les routes. Et il était accueilli comme l'ange, comme l'ange dans l'histoire d'Abraham. On accueillait le pèlerin, on ne savait pas ce qui se cachait sous la pèlerine. Et ces deux emblèmes sont essentiels parce que souvent, dans les petites clochettes de la bourse, il y avait des phrases de la Bible. Et à chaque tintement, donc à chaque pas, le pèlerin avait mémoire de ces phrases de la Bible.
Et vous nous disiez que les pèlerins étaient partout sur les routes, donc il y avait de très nombreux pèlerinages au Moyen-Âge. On connaît aujourd'hui le fameux pèlerinage de Compostelle, qui revient à la mode d'ailleurs. De plus en plus de gens redécouvrent le pèlerinage de Compostelle. Dites-nous-en un mot, quels sont les principaux pèlerinages au Moyen-Âge, ceux que tout le monde essaye de faire dans sa vie?
Alors c'est tout à fait étonnant parce que depuis le XIe siècle, d'ailleurs, on organise les pèlerinages sur les anciennes voies romaines. Et il y a de véritables, on pourrait dire, guides, comme on a des guide aujourd'hui pour voyager, on a les guides du pèlerin de Saint-Jacques qui nous donnent l'état des routes, les hébergements qu'on peut trouver, exactement comme aujourd'hui. Et un pèlerin était toujours bien accueilli, souvent dans les monastères où il pouvait trouver à manger, on pouvait le soigner et aussi l'ensevelir parce qu'il y en a beaucoup qui mouraient sur les routes. Et donc, ces petits guides étaient tout à fait essentiels avant de partir. Il y a un cérémonial qui était lié aux pèlerins. On donnait ces insignes quand on revenait d'un pèlerinage et on les faisait bénir avant de partir parce qu'on n'était pas sûr, encore une fois, de revenir. Mais ce qu'on trouvait à la fin du chemin, c'était une connaissance de soi-même.
Est-ce que vous ne voyez pas que c'est ce que vous dites? C'est beau, mais est-ce que ce n'est pas un peu réservé à une élite? Est-ce que vous avez l'impression que tous les pèlerins qui partaient allaient vers cette connaissance de soi-même, avaient le sentiment que c'était l'esprit qui n'irait pas? Ou est-ce qu'il n'y a pas beaucoup un peu de magie? C'est-à-dire qu'on fait un pèlerinage, on se dit parce que j'ai été à tel endroit sans forcément beaucoup prier, j'aurai le paradis ou je vais gagner la vie éternelle, avec un petit peu comme ça se passe dans toutes les religions à un niveau populaire, tout simplement. Est-ce que ce n'est pas à deux niveaux, ce pèlerinage?
Il y a un niveau très concret du pèlerinage, mais encore une fois, ce n'est pas réservé à une élite, car on pourrait dire qu'il y avait toute une population sur les routes. Aller en pèlerinage était très fréquent. Il y avait des petites distances comme de plus longues. Et en fait, la vie elle-même était considérée comme un pèlerinage. Et au bout du chemin, on espérait arriver au port et retrouver cette Jérusalem céleste à laquelle on aspirait. Mais le but essentiel, ça n'était pas l'arrivée au port finalement, c'était chaque pas qu'on accomplissait et chaque pas nous faisait évoluer vers quelque chose. Et là, on revient au livre du pèlerinage de vie humaine, où on nous montre finalement tous les aspects d'un pèlerinage intérieur, où finalement le but n'est pas l'essentiel, mais c'est les pas que l'on a accomplis pour arriver à ce but.
Alors allons jusqu'au bout de la symbolique, puisque au fond ce qui compte ce n'est pas le but, c'est effectivement la marche, c'est le pas. Est-ce qu'il y a besoin de marcher pour ça? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a besoin de prendre son bâton, de pèleriner, ou est-ce que ça peut se faire chez soi, sans bouger de chez soi? Au fond, si je vais jusqu'au bout de ce que vous dites, le pèlerinage c'est tout simplement le progrès de la vie spirituelle, il peut se faire n'importe où.
C'est la vie et ça se découvre effectivement en marchant pour certains. Et puis pour d'autres, vous voyez, moi, mon pèlerinage intérieur, ça a été aussi à travers les pages de ce manuscrit, parce que ça élargit ma vision de la vie. Donc c'est un pèlerinage tout à fait statique, puisque j'étais assise, mais j'ai fait un immense voyage, et ce voyage, il était confronté aux événements de la vie. Et en fait, le pèlerinage, c'est la vie. On marche tous les jours. On marche dans sa tête et on marche avec ses jambes.
Oui, mais il n'y a pas besoin de se dire on va aller, je ne sais pas, à Compostelle ou à la Mecque, etc. Le vrai pèlerinage, comme vous dites, c'est la vie, donc c'est le quotidien. C'est chaque jour
c'est
l'attention
quotidien
que nous avons dans la vie spirituelle ou la manière dont nous réagissons aux événements de la vie pour essayer de progresser, donc quand même vers un accomplissement.
Oui, c'est exactement ça. C'est un élargissement de la conscience où on apprend progressivement à contrôler ses émotions, à guider ses pas, on pourrait dire, pour reprendre ce sens de la marche, et finalement, à voir que tout ce qui nous submerge dans la vie, et c'est pour ça que ce pèlerinage se passe peut-être au Moyen-Âge, mais moi, il a changé mon existence dans la mesure où il est tout à fait actuel, c'est la vie. Et à partir du moment où on apprend à quel point on est submergé par le passé et à quel point on projette aussi vers l'avenir et qu'on n'est jamais dans ce présent, eh bien, quand on commence à pouvoir contrôler un petit peu plus cette histoire-là, alors on a un élargissement de la conscience et là on trouve ce qu'on appelle la paix, la Jérusalem céleste. On s'y achemine en tout cas. Alors c'est un pèlerinage.
Alors vous dites dans vos ouvrages que au fond on ne pèlerine pas seul. Les pèlerins au Moyen-Âge avaient le sentiment d'une présence du ciel.
Oui, au Moyen-Âge il n'y a pas de cloison étanche entre le monde visible et le monde invisible. Et au contraire, même les aspects les plus simples de la nature sont porteurs de sens. On ne regarde pas une forêt, on ne regarde pas une mer, la mer MER, sans trouver un sens à tout cela. La mer, c'est le monde de la matière, le monde de la terre, dans lequel on peut se noyer si on n'a pas ce petit bâton de pèlerin et qui va nous conduire, qui est le bâton de l'esprit. La forêt, c'est la même chose. L'eau, c'est la même chose. On voyait les esprits dans l'eau. Et l'homme au Moyen-Âge considère qu'il a un ange gardien. Et il y a toute une foule d'ailleurs d'anges qui sont là pour nous secourir, mais que l'on ne voit pas. Ou plutôt que l'on n'entend pas, car la vision est souvent liée à l'audition. Et d'ailleurs, il y a une très belle phrase de Bernard de Clairvaux qui dit « Si tu veux voir, écoute d'abord. L'audition est un degré vers la vision. » »
Vous êtes sur France Culture dans l'émission de Frédéric Lenoir, Les Racines du Ciel, en compagnie de Paul Amblard, et nous parlons du pèlerinage intérieur. Alors Paul Amblard, nous venons d'écouter un choix musical que vous avez fait. Dites-nous de quoi il s'agit.
C'est un chant carolingien du XIe siècle et j'aime le fait que ce soit un chant d'un anonyme. Et là, on rejoint le manuscrit sur lequel j'ai travaillé. On connaît son auteur, le moine de Digulville, mais on ne connaît pas celui qui a enluminé toutes les images. Et c'est tout à fait symptomatique de toute cette cohorte de gens qui œuvraient sans chercher la gloire. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient une action sur l'humanité qui était de lui amener un enseignement, de l'amener à pouvoir évoluer. Et finalement, c'était comme des médecins, les peintres. Ils guérissaient les hommes, mais ils n'avaient pas besoin de gloire personnelle.
C'est vrai qu'on est très frappé du nombre d'anonymes qu'on rencontre au Moyen-Âge sur des œuvres absolument sublimes. Et est-ce que justement l'humilité, c'est pas un peu le point de départ, le fondement du pèlerinage, de l'intention de celui qui décide de se lancer sur la route ?
Oui, le pèlerin, puisque c'est l'histoire d'un pèlerin qui marche sur une route et qui fait des rencontres. Et ce pèlerin, c'est nous. Et à chaque rencontre, eh bien, il va soit chuter, soit se relever, soit avoir des éclairs subis, comme on en a tous finalement. Ce pèlerin, il apprend une chose au départ. Et d'ailleurs, l'image est tout à fait extraordinaire. On le voit diminuer de taille. Il devient petit. Parce que la première chose, c'est de se savoir petit, parce que si on ne se sait pas petit, on n'a pas à grandir, on est déjà grand. Or, lui va apprendre à grandir. C'est tout le sens du pèlerinage. Alors, l'humilité, c'est quelque chose de très important, et ça va aussi avec ce sens de s'alléger. On marche dans la vie en voulant toujours se protéger des choses, et pour se protéger, on a tendance à accumuler, à consommer, à se nourrir de matière. Or, tout le but du pèlerinage intérieur, c'est la décantation de soi-même, et c'est de s'alléger de poids que l'on croit à tort être soi, pour se trouver. Et en fait, paradoxalement, plus on s'allège, plus on se trouve. Voilà le sens de l'humilité.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas dans cet allègement, la nécessité aussi de s'alléger de tout le bruit intérieur que nous avons, toutes nos pensées, tout ce qui nous agite, notre mental, qu'on retrouve évidemment dans le bouddhisme et dans toutes les spiritualités et sagesse orientale, où faut arriver à être dans l'écoute, à faire le silence en soi. Est-ce qu'on retrouve ça dans cette dimension du pèlerinage de vie humaine, telle que ces manuscrits médiévaux en parlent ?
De la même manière, l'écoute, le silence intérieur est quelque chose d'essentiel. Et à tel point qu'il y avait un homme qui s'appelait Évagre le Pontique et qui était un ermite dans les déserts d'Égypte au 7e siècle. Et lui nous dit, eh bien finalement, les pensées, c'est ça les petits satans. Le satan intérieur, ce sont nos pensées envahissantes qui finalement nous détournent de notre cœur profond, ce cœur paisible, et qui nous empêche finalement de nous connaître dans le fond de nous-mêmes. Le fond de nous-mêmes qui est quelque chose, encore une fois, de paisible, mais qu'il nous faut trouver, qui est caché. Et voilà tout le sens aussi du pèlerinage.
Et dans ce cheminement, il y a évidemment des combats, des épreuves, des difficultés. Vous parliez tout à l'heure du bâton. Le bâton, bah, il sert aussi à se battre. Est-ce que ce n'est pas le symbole de la nécessité d'avoir à affronter en soi, évidemment, dans le sens symbolique, un certain nombre d'épreuves, d'arriver à lutter. Le pèlerin, c'est aussi quelqu'un qui est un guerrier. C'est aussi quelqu'un qui doit grandir, comme on le trouve dans toutes les traditions. Il y a cette idée d'un combat spirituel qui est nécessaire, finalement, à la progression.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, il y a des images à un moment où le pèlerin est guidé par son ange gardien, qui a d'ailleurs un très beau nom. Elle s'appelle Grâce de Dieu, tout un programme. Et elle le mène pour s'armer. Et le pèlerin, d'ailleurs, n'en voit pas la nécessité. Alors les armes, elles sont symboliques, car le combat à mener, c'est peut-être le plus difficile. Ce n'est pas contre un ennemi extérieur, mais c'est un combat intérieur. Ce sont nos propres ombres qu'on va devoir affronter pour trouver notre lumière, notre cœur paisible, encore une fois. Alors les soufis en parlent également, ils disent, eux, qu'il faut polir le miroir du cœur. C'est exactement la même chose et c'est le même combat qu'il nous faut mener.
Oui, on retrouve ça dans toutes les traditions. Moi, je me souviens avoir fait, il y a une dizaine d'années, d'avoir organisé un dialogue entre un moine bénédictin et un lama tibétain. Et ils ont parlé du chemin spirituel et c'était passionnant de voir, pendant une semaine, ils ont dialogué dans un monastère et dans un centre bouddhiste. Et ils étaient profondément d'accord sur toutes les étapes essentielles du chemin spirituel et en montrant l'importance qu'il y avait du combat contre ses pensées, contre ses propres démons intérieurs, contre des pulsions négatives et destructrices. Et je me disais vraiment, autant le christianisme et le bouddhisme dans un dialogue théologique, je dirais dogmatique, ne peuvent absolument pas se comprendre, autant dès qu'on est sur le chemin spirituel, donc le pèlerinage de vie humaine dont on est en train de parler, on voit que toutes les grandes traditions qui ont expérimenté ce chemin disent à peu près la même chose.
Tout à fait, et d'ailleurs le pèlerin revêt des armes symboliques. Par exemple, il revêt un pourpoint qui est le pourpoint de patience. Pourquoi on rejoint encore l'humilité, ne pas céder à la colère, ne pas céder à l'orgueil, ne pas céder à l'envie. C'est un travail de détachement sur l'événement pour pouvoir finalement goûter tout ce que la vie va nous apporter. Car au fond, on rejoint presque les bouddhistes, l'événement en lui-même est neutre. Il n'est ni bon ni mauvais. Mais l'essentiel, c'est la façon dont on va aborder cet événement qui est important. Et le détachement nous permet ça, la patience nous permet ça, en quelque sorte. Donc il nous faut à tous un pourpoint.
Bien sûr. Notre liberté, ce n'est pas tant de choisir qu'il va nous arriver telle ou telle chose, c'est la réaction qu'on va avoir aux événements. Et c'est évident que là, ce qui fait la grandeur d'une vie, c'est d'avoir su réagir aux événements qu'on n'a pas choisis, une maladie, une rencontre, et d'avoir su réagir de manière qui nous fasse avancer, qui nous permette d'être encore plus libres ou d'être encore plus dans l'amour, parce qu'on n'en a pas parlé du tout. Mais est-ce qu'au fond, la question de l'amour est un des buts du pèlerinage?
C'est un état. Et pour accéder à cet état, il faut faire la paix. Et le but de tous ces pas sur une route, que ce soit une route de pèlerinage, que ce soit la route de la vie, c'est de faire la paix pour trouver justement ce que l'on cherche sans le savoir, c'est-à-dire soi-même. Et soi-même, c'est un retour à nos origines, c'est un retour aux premières pages de ce que la Bible dit de l'homme. C'est un état d'alliance avec Dieu.
On parle un petit peu du moment du cheminement, mais finalement, il y a quand même à un moment donné un résultat. On arrive au bout de la quête, donc vous nous avez dit, et c'est très juste, que ce qui compte, c'est essentiellement le cheminement, c'est essentiellement d'être en route, mais il y a quand même à un moment donné un terme possible ou pas à cette quête. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va rechercher de manière ultime, et est-ce qu'on peut dire que le pèlerin atteint un jour son but ?
En fait, qu'il atteigne ou non son but, ce n'est pas l'important. Encore une fois, le but n'est pas l'important, c'est le cheminement qui est important. Et le pèlerin, il chute comme chacun de nous. Il est très lâche, il a nos petites lâchetés, il a notre courage aussi. Et quand il se redresse, eh bien, à un moment de l'histoire, il va voler. C'est une image très jolie. Il rencontre une petite demoiselle qui s'appelle le printemps. Et le printemps, elle s'appelle Jeunesse la Légère. Et finalement, il va voler sur les ailes de cette petite jeune fille qui est un symbole de l'esprit. C'est encore une fois un symbole d'allègement. Mais le but en lui-même n'est pas important. Ce sont les pas qui amènent le pèlerin tout d'un coup à se transformer, à transmuter sa matière, à transformer, on pourrait dire, son plomb en or. Le plomb matériel en or.
Toute l'alchimie de la vie.
Toute la chimie de la vie.
Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une promesse qui est faite aux pèlerins ? Parce que quand on part en pèlerinage, bien sûr, on se dit l'essentiel, c'est de pèleriner. Mais de la même manière que sur un plan purement matériel, le pèlerin va aller de tel endroit à tel endroit. Donc il a un but. Le pèlerin, il s'arrête à Compostelle, à Rome, à Jérusalem. Ce but, ça le hante. C'est-à-dire qu'il a hâte. Même s'il sait que l'essentiel est de cheminer, il est tout le temps dans l'attente, dans l'espérance d'atteindre ce but. Est-ce qu'il n'y a pas de manière spirituelle, de manière plus symbolique et intérieure, l'équivalent, c'est-à-dire que est-ce qu'il n'y a pas une promesse d'une réalisation possible, spirituelle, qui est le but du pèlerinage de la vie humaine ?
Bien sûr, une libération. La libération dont je parlais avec Jeunesse la Légère, c'est ça le but du pèlerinage. Et on vient souvent sur Terre, encore une fois, pour amasser, alors qu'il faut s'alléger. Il y avait une sainte qui s'appelait Thérèse de Lisieux, quand sa sœur Céline entre au couvent, Elle dit à sa sœur Thérèse, « Oh là là, avec tout ce que j'ai à apprendre encore, il me faut accumuler encore tellement de connaissances. » Et elle lui dit, « Non, à perdre, c'est la perte qui est importante, c'est de s'alléger. » Voilà le but du pèlerinage, c'est ces petits éveils successifs qui mènent à une libération. Et aussi à l'acceptation de la fin ultime. Et c'est ça le grand but du pèlerinage.
Apprendre à mourir.
Apprendre à mourir. Accepter la mort, accueillir la mort.
Sans peur.
Sans peur. Et d'ailleurs, l'image finale du pèlerinage est tout à fait extraordinaire. C'est Dame Mort qui sourit. Une petite dame très souriante. Et le pèlerin l'accueille et lui sourit également. Parce que après toutes ces étapes d'éveil successifs, eh bien, il y a une libération et un accueil de celle qui va finalement le libérer tout à fait en libérant l'âme de son corps.
Mais les mots que vous utilisez, les mots éveil, les mots libération, il faut toujours penser évidemment à l'Orient. On retrouve exactement cette idée, que ce soit dans l'hindouisme ou dans le bouddhisme, de ce cheminement de la vie dont il faut à un moment donné sortir. C'est-à-dire que le but ultime, c'est la sortie. Donc vous disiez tout à l'heure que dans la vision chrétienne médiévale, l'homme était en exil sur la terre, hein, était comme un pèlerin et devait retrouver sa véritable patrie. Il y a exactement cette idée en Orient, que l'esprit doit se libérer du corps, de la matière, pour atteindre sa véritable libération, la moksha chez les Indiens, le nirvana chez les bouddhistes. Donc je suis vraiment très frappé toujours de ces parentés très profondes entre la pensée spirituelle médiévale, telle que vous en parlez, et telle que l'Orient nous parle de la libération. Pour revenir à vous, je le disais tout à l'heure, vous avez écrit un très très beau livre qui s'appelle Un pèlerinage intérieur, où vous racontez finalement votre propre cheminement à partir de cette découverte de ce manuscrit médiéval. Et donc vous n'êtes visiblement pas sorti indemne de cette lecture.
Oui, ai-je refermé ce livre, ce vieux manuscrit du Moyen-Âge ? Je ne le pense pas, puisque je continue le pèlerinage, et d'ailleurs le pèlerin est souvent à côté de moi, et grâce de Dieu, je ne suis pas seule sur le chemin. Et c'est vrai que tout ce travail à partir du Moyen-Âge, pour l'historienne, ça a été passionnant, mais pour la femme, ça a été tout à fait extraordinaire aussi, parce que finalement, tout ce que le moine, dans son manuscrit, nous apprend, c'est à vivre. Et donc, ça m'a appris à accepter beaucoup mieux les choses, à ne plus me laisser envahir par toute cette émotion qui peuvent nous submerger à longueur de notre quotidien. Et finalement, ces petites recettes de vie, ces petites clés de vie ouvertes par ces images et par l'histoire de ce moine, ont rejailli sur toute mon existence et ont été dans un sens d'élargissement. Et attention, ce n'est pas un élargissement dans un sens purement nombriliste, parce que ça n'aurait aucun intérêt, mais pour voir finalement ce qui nous relie aux autres. Et au-delà de tout ce travail, bien il y a un état de libération et il y a un état joyeux, il faut le dire.
Nous continuons notre discussion avec Paul Amblard autour du pèlerinage comme symbole de la quête spirituelle. Je rappelle son très bel ouvrage, Un pèlerinage intérieur, publié chez Albin Michel. Et je me tourne maintenant vers Lélie Anvar. Bonsoir Lélie.
Bonsoir.
Alors nous allons prolonger cet échange à travers des lectures comme chaque mardi soir avec vous. Quelle lecture vous avez choisie pour nous parler du pèlerinage de vie humaine ?
Alors, je vous ai choisi un extrait d'un récit de Sohrawardi, qui est un penseur de l'islam, en fait un Iranien qui a réuni dans sa pensée le zoroastrisme, le platonisme et l'islam, qui a vraiment tenté une synthèse des trois. Et si je le dis, c'est parce que c'est très important dans sa conception du pèlerinage intérieur, justement, puisqu'il va nous livrer dans un très beau récit traduit par Henri Corbin, intitulé « Le récit de l'exil occidental ». Il va donc nous livrer son propre pèlerinage intérieur de l'Occident, qui est le monde des ténèbres, vers l'Orient, qui est le monde des Lumières.
Ça, c'est très bien, parce qu'on a parlé du christianisme, du bouddhisme, et au fond, on retrouve aussi dans l'islam tout à fait ce même thème.
Oui, absolument. Avec peut-être la différence, si je puis me permettre, que malgré tous ces thèmes très semblables entre le bouddhisme et le pèlerinage intérieur, que ce soit dans l'islam ou dans le christianisme, que certes, le but, il n'y a pas vraiment de but, mais néanmoins, là où arrive le pèlerin, c'est tout de même le lieu divin. De même qu'il arrive dans ce monde, dans la maison de Dieu, je pense qu'intérieurement, le pèlerin monothéiste, et c'est la grande différence à mon sens avec le bouddhisme, n'arrive pas à rien, mais arrive à une sorte de tout, qui est au fond la présence divine.
Dans le bouddhisme, il arrive à une libération. Oui, mais une libération qui n'est pas définie. Alors voilà. Que là, effectivement,
voilà,
elle n'est
pas définie. Tandis que là, on voit quand même très clairement dans les textes que cheminer vers soi-même, c'est finalement trouver Dieu en soi-même, dans ce miroir que l'on a poli. Et ça se retrouve chez Sohrawardi, ça se retrouve chez beaucoup d'autres penseurs mystiques. Et bon, Sohrawardi est aussi le maître de la philosophie de l'illumination, qui précisément est cette philosophie orientale dans le sens, cette terre où la lumière se lève. Et évidemment, c'est une terre intérieure. Et tout le récit qu'il fait est basé aussi sur une pensée profondément platonicienne. Car l'idée, c'est que le pèlerinage intérieur, c'est un cheminement dans le monde des idées. Et qu'il y a un monde imaginal qui est infiniment plus réel que le monde matériel. Et c'est dans ce monde-là que le pèlerin spirituel avance. Et c'est là qu'il va passer des ténèbres à la lumière et à un moment où d'un coup tout va se dévoiler et où il va arriver à la vision béatifique.
Je sortis des grottes et des cavernes et j'en finis avec les vestibules. Je me dirigeais droit vers la source de la vie. Voici que j'aperçus le grand rocher à la cime d'un mont semblable à la sublime montagne. J'interrogeai les poissons qui étaient rassemblés en la source de la vie, jouissant du calme et de la douceur à l'ombre de la cime sublime. Cette haute montagne, demandai-je, quelle est-elle donc? Et qu'est-ce que ce grand rocher? Alors l'un des poissons choisit pour son chemin dans la mer un certain courant et il me dit « Cela, c'est ce que tu désiras si ardemment, cette montagne et le mont Sinaï et ce rocher et l'oratoire de ton père. » Lorsque j'eus entendu cette réponse et ayant éprouvé les vérités, je les embrassai. Je me réjouis de les voir comme ils se réjouirent de me voir. Puis je fis l'ascension de la montagne, et voici que j'aperçus notre Père à la façon d'un grand sage, si grand que les cieux et la terre étaient près de se fendre sous l'épiphanie de sa lumière. Je restai ébahi, stupéfait. Je m'avançai vers lui, et voici que le premier, il me salua. Je m'inclinai devant lui jusqu'à terre, et j'étais, pour ainsi dire, anéanti dans la lumière qu'il irradiait.
Prenons notre échange avec Paul Amblard pour le pèlerinage intérieur et Lilian Var. Donc vous avez choisi, je crois en lien avec votre invité, un deuxième texte qui est plus de la tradition chrétienne cette fois.
Oui, c'est un très beau choix de Paul Amblard, puisque c'est un poème de Saint Jean de la Croix, poème très célèbre, connu sous le titre « Messe de nuit ». Et j'ai évidemment beaucoup aimé votre choix, puisqu'il fait tout à fait écho à ce texte de Sohrawardi. On voit que ce pèlerinage intérieur se fait, c'est une traversée des ténèbres pour arriver à la fois à l'eau de la vie et à la lumière. Et les deux thèmes de l'eau de la vie et de la lumière que nous avions dans le texte de Sohrawardi, nous les trouvons dans ce texte de Saint Jean de la Croix, comme s'ils avaient fait le même voyage intérieur et qu'ils l'avaient exprimé en des termes très très proches.
C'est toujours le même cheminement. il faut accepter de descendre dans ces ombres pour trouver la lumière. Ces ombres corporelles, ces ombres matérielles, il y a une sagesse cachée au fond de cette opacité. Et pour qu'émerge le subtil de l'épais, eh bien, il faut accepter ce combat. Et c'est exactement cette obscurité que l'on retrouve dans les deux textes.
Ce qui me frappe aussi en vous écoutant, c'est que c'est au fond aussi l'ambition de la psychanalyse d'une certaine manière. Lorsque Freud décide de faire ce travail de mise à jour de ce qu'il y a dans l'inconscient pour le rendre, traverser cette ombre de l'inconscient pour le rendre conscient. Lorsque Jung dira il faut traverser l'enfer de ses passions pour les avoir surmontées, au fond, est-ce que ce n'est pas le même projet ?
Parfaitement. Et d'ailleurs, je citais Isaac le Syrien, moine ermite du 7e siècle tout à l'heure, eh bien on retrouve, finalement il a inventé beaucoup de choses avant Freud, Isaac, en parlant de tout justement, de tout ce travail des pensées qui nous submerge et qui nous empêche d'accéder à quelque chose qui soit plus paisible et qu'il appelle donc les petits satans intérieurs. C'est exactement, finalement, Freud reprendra tout ce travail des pensées, des émotions qui sont envahissantes.
Oui, mais là, à nouveau, je mettrai peut-être un bémol. Je ne voudrais pas me faire l'avocat du diable, en l'occurrence, mais tout de même, chez Freud ou dans la psychanalyse, il est certain que la base du travail, effectivement, va être reprise de la même façon. Mais néanmoins, il y a une présence de la transcendance chez les mystiques qu'il n'y a pas chez Freud.
Parfaitement.
Donc ce travail de la psychanalyse s'arrête au travail sur les passions, à une certaine vision de sa propre psychologie, évidemment, de ses nœuds, de l'inconscient finalement. Mais je crois quand même qu'il manque cette dimension de la lumière qui est si présente chez les grands mystiques et qui finalement est indissociable d'une certaine expérience de la foi.
Alors nous écoutons Saint Jean de la Croix.
Je la connais, la source d'eau vive qui coule et se répand, mais c'est de nuit. Cette fontaine éternelle est cachée, je sais bien où elle est, mais c'est de nuit. Dans la nuit obscure de cette nuit, je la connais bien, par la foi, cette source, mais c'est de nuit. Son origine, je l'ignore, elle n'en a pas. Je sais que tout être en tire son origine, mais c'est de nuit. Je sais qu'il ne peut y avoir de choses plus belles, que la terre et les cieux vont s'y abreuver, mais c'est de nuit. Je sais bien que c'est un abîme sans fond et que personne ne peut y passer à gué, mais c'est de nuit. Sa clarté n'est jamais obscurcie et je sais bien que toute lumière vient d'elle, mais c'est de nuit.
Vous êtes sur France Culture dans l'émission de Frédéric Lenoir, Les Racines du Ciel. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Paul Amblard pour parler du pèlerinage de vie humaine avec son livre chez Albin Michel, Un pèlerinage intérieur. Paul Amblard, c'est vous qui avez choisi aussi cette musique. Dites-nous-en un mot.
Oui, alors c'est un couvent au-delà de Jérusalem. Ce sont des sœurs, les sœurs de Bethléem. Elles sont ermites. Et elle chante là un hymne en arabe, et c'est un couvent tout à fait exceptionnel où ses sœurs ont une synagogue dans leur monastère, et elles sont d'une clarté, et justement on parlait du silence tout à l'heure, alors là on sait quand elles parlent toute la valeur de la parole.
Alors nous passons maintenant au troisième moment de cette émission. Nous quittons un peu avec la question des auditeurs le thème de l'émission, bien que des fois ça puisse avoir un lien. Effectivement, si j'arrive à trouver une question qui est en lien avec le thème, j'essaie de le faire, mais il n'y a pas toujours la possibilité de le faire. Je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer vos questions par mail à l'adresse suivante, les racines du ciel, tout attaché en minuscules, @radiofrance.com. Les racines du ciel, @radiofrance.com. Vous pouvez nous préciser en envoyant votre mail si vous souhaitez que vos questions soient lues par mail ou si vous souhaitez intervenir dans l'émission, et auquel cas il faut nous laisser votre téléphone pour que nous puissions vous appeler. Alors aujourd'hui j'ai une question par mail de Jean-François qui me demande si l'angoisse de mort n'est-elle pas à l'origine des religions et de la foi. Alors évidemment c'est une question très importante. Je dirais deux choses. La première chose, c'est qu'on constate en tout cas, et j'ai déjà été amené, je crois, à le dire dans ces émissions, on constate que les rituels de la mort, la préoccupation par rapport à la mort, est effectivement les premiers signes de rituels religieux. Les premiers rituels religieux sont des rituels de la mort, où on sent qu'il y a un intérêt pour, finalement, on s'intéresse à ce qui peut advenir du défunt. On se pose la question d'un au-delà, donc on va enterrer le défunt dans une position fœtale, on va l'enterrer avec des armes, avec de la nourriture. Donc on voit bien que, évidemment, la mort est la grande épreuve et la grande question qui habite l'humanité. Et dès 100 000 ans avant Jésus-Christ, on constate que, contrairement aux animaux, les hommes ritualisent la mort. Et puis les religions vont progressivement se développer à partir de ces premiers rituels. Je dirais aussi, et ça fait un peu pendant avec l'origine, qu'aujourd'hui, dans nos sociétés extrêmement sécularisées, dans lesquelles la religion tend à disparaître de plus en plus, notamment la religion chrétienne, et ben malgré tout, ce qui résiste le mieux dans les pratiques religieuses, ce sont les funérailles. On s'aperçoit qu'il n'y a que 10% des gens qui continuent de pratiquer régulièrement, mais 80% des Français continuent de souhaiter des funérailles religieuses. Ce qui montre bien que chez l'être humain, il y a ce sentiment que la mort, c'est quelque chose qui doit être sacralisé. C'est pas un moment anodin, c'est un moment essentiel qu'on le considère comme une fin définitive ou comme un passage vers autre chose, vers un autre état de vie. Mais on sent bien que quoi qu'il arrive, quoi qu'on pense, c'est un moment qui demande du recueillement, qui demande un rituel. On ne peut pas dire au revoir à ses proches et les enterrer n'importe comment. Donc là, ce sens effectivement de la mort et cette angoisse probablement face à la mort est très liée à la religion. Alors maintenant, la question fondamentale qui est de savoir si c'est l'angoisse de mort qui est à l'origine des religions, c'est très difficile d'y répondre. Freud en est convaincu. Donc si on prend les psychanalystes ou un certain nombre d'auteurs athées qui pensent que la religion est une invention humaine, l'angoisse de mort va être effectivement perçue comme à l'origine du sentiment religieux. Chez Freud, dans L'avenir d'une illusion, il montre à la fois que la religion a une face névrotique et une face psychotique. Et dans la face psychotique, il explique que c'est parce que l'enfant, lorsqu'il est petit, a une angoisse qu'il appelle le désemparement, lorsqu'il réalise que ses parents ne sont pas tout puissants pour le protéger. Et le protéger face aux menaces innombrables de la vie et face très probablement effectivement à cette peur de la mort, de la disparition. Et lorsqu'il constate que ses parents ne sont pas tout puissants à le protéger, il va rechercher des forces surnaturelles toutes puissantes qui pourront être des substituts parentaux et qui donc pourront l'aider à vivre et à survivre dans un monde aussi dangereux et qui lui fait autant peur. Et pour Freud, c'est la naissance du sentiment religieux. C'est-à-dire que la croyance en des forces surnaturelles bienveillantes, bonnes, toutes puissantes qui nous protègent, effectivement, ça va naître de cette angoisse fondamentale face au danger de la vie et face à la mort. Alors, C'est peut-être vrai, on n'en sait rien. C'est une théorie, en tout cas une théorie athée évidemment, qui tente à donner une explication globale matérialiste du phénomène religieux, mais qui peut être tout à fait pertinente. Et puis les croyants répondront que l'angoisse de mort, ça peut être au contraire l'occasion de chercher, elle est peut-être permise ou voulue par Dieu, par la source divine, pour que l'homme recherche sa source, on parlait du pèlerinage tout à l'heure, et qu'il soit en quête finalement, ayant conscience qu'il est en exil sur cette vie, sur cette terre, il est à la recherche de sa source, il est à la recherche de ce qui est la vie véritable dont il a la nostalgie. Est-ce que c'est pas, Paul Lambert, un petit peu l'interprétation médiévale ?
Donc finalement, la mort serait un bienfait, en quelque sorte, si je caricature beaucoup, puisque, en fait, pour connaître la lumière, eh bien, il faut être dans l'ombre. La lumière vient dans l'ombre, et cette ombre de la mort, cette écorce que l'on a quitté et finalement va nous amener vers la lumière. Voilà tout le sens de la mort aussi.
Nous pourrons parler pendant des heures de cette question qui est très importante. En tout cas, il est certain qu'il y a un lien entre évidemment la mort, l'énigme de l'existence, la peur que nous pouvons tous ressentir au moment de la mort et le sentiment religieux. De là à dire si c'est l'explication ultime, je crois que nul ne le sait. Et effectivement, c'est un point... Oui, Paul Lambert, vous voulez rajouter quelque chose ?
J'ajoute que dans la vie, on a des toutes petites morts à longueur de temps et que le chemin de l'évolution, ce sont des petites morts à soi-même jusqu'à la mort ultime, qui n'est que le passage ultime, finalement. Bien souvent, on a l'impression de mourir quand on a des épreuves et des choses comme ça qui arrivent. Donc, finalement, on vit toujours... c'est un éternel, une éternelle mort à soi-même dans la vie.
Ça me fait penser ce que vous dites à la manière dont les orientaux conçoivent la mort. Moi, je suis toujours frappé, c'est quelque chose que je dis assez souvent, c'est que lorsqu'on pose la question à un occidental, quel est l'inverse de la mort ? Il va répondre vie. Lorsque vous posez la même question à un oriental, quel est l'inverse de la mort, il va vous répondre naissance. Puisque pour lui, la naissance et la mort sont deux moments de la vie. La vie est beaucoup plus englobante. On vit en permanence des morts et des renaissances. Et au fond, la vie, c'est quelque chose qui ne commence nulle part, qui ne finit jamais. Il y a cette croyance fondamentale en Orient que la vie est tout le temps là et qu'il y a des passages. Voilà, il y a des moments où on est, où on meurt. Alors que nous, évidemment, en Occident, on est dans une vision d'un temps linéaire dans lequel il y a un début qui est la vie, il y a une fin qui est la mort. C'est ça qui crée l'angoisse, évidemment, de la mort.
Cette émission est podcastable pendant un an et réécoutable pendant 1000 jours sur le site de France Culture. La semaine prochaine, vous pourrez réécouter une rediffusion de l'émission « L'accompagnement en fin de vie » avec Gabriel Ringlet. bon dimanche à tous.